Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Parmi les meilleures ventes de livres sur Amazon, on trouve Sérotonine de Michel Houellebecq, mais dans le top 15 des ventes, en majorité des livres de spiritualité ou de bien-être, comme les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, fils de guérisseur, de chaman mexicain, ou Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, enseignant spirituel selon les termes mêmes de l'auteur. Bien loin de se désintéresser des questions spirituelles, les Français sont de plus en plus attirés par le monde invisible, désireux de trouver une voie qui leur donne paix, bien-être, bonheur. Le christianisme peut-il répondre à cette quête? Est-il possible, en plus de rencontrer un Dieu vivant, de découvrir qu'il peut agir, changer des vies, relever et guérir? Dieu peut-il guérir? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, et donc le thème, comme l'a annoncé un teasing qui a largement tourné à cette antenne depuis ce week-end et qui, je crois, continuera de tourner une partie du carême, série de carême d'émission Vivante Église, donc sur ce thème Dieu peut-il guérir, avec comme invité voilà, une figure spirituelle, en tout cas c'est comme ça nous qu'on le désigne, Daniel Desbois, pardon. Vous êtes psychologue, fondateur des Agapés, retraite de guérison intérieure du Puy-en-Velay. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
On vous avait eu dans une émission, je crois, sur un thème avoisinant, il me semble, il y a un an ou deux, mais on s'est dit qu'on allait prendre le temps. Qu'est-ce que vous pensez de, non pas de mon introduction, mais de ce qui se joue un peu aujourd'hui dans la société française? On lit des choses, et j'essaye d'en parler assez souvent, assez contradictoires, à la fois qu'on serait, il y avait un article, je crois, encore dans le journal La Croix cette semaine, un pays où le nombre de sans-religion est de plus en plus important, c'est maintenant une majorité de la population, et pourtant, il y a une recherche spirituelle rituels et des ouvrages comme ça qui connaissent un grand succès. Ça vous étonne?
Non, au contraire, ça me réjouit, même si on peut se dire, bon, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens là-dedans, là. Ce courant chrétien, où est-il? Il y a une absence, mais d'un autre côté, il y a une recherche, et donc un besoin profond, un besoin intérieur. Alors évidemment, il y a des dérives, parce qu'il y a des sectes qui prennent souvent la place, parce qu'il y a des propositions qui sont faites, souvent alléchantes, mais en même temps qui répondent à des besoins. Quand on a conscience à un moment, parce que j'ai fait partie, moi j'ai vécu aussi dans une secte pendant 12 ans, donc je sais ce que c'est aussi l'emprise qu'il peut y avoir, et en même temps, je sais que le bon Dieu ne laisse pas ses enfants, il vient les chercher en son temps. Pour notre part, avec mon épouse, c'est à 46-47 ans qu'on a vécu véritablement une conversion familiale, il est venu chercher tout le monde. Eh bien, je peux vous dire que notre cœur était prêt. Et je crois que s'il est venu nous arracher de ces chemins de dérive, c'est parce qu'on cherchait Dieu.
Alors, c'est-à-dire qu'on peut se désoler de recherches spirituelles quand on est chrétien et convaincu qu'ils ne prennent pas le même chemin. Est-ce qu'on peut se dire que quelque part c'est aussi l'esprit qui travaille le monde, ou est-ce que c'est pousser le bouchon un peu loin?
Non, c'est ce que je pense, parce que je vois en cabinet, quand j'accueille les gens, déjà dans mon cabinet il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire croix, il y a la Vierge Marie, il y a chapelet, il y a tout ce qu'il faut pour que la personne qui vient et qui est en face de moi, peu importe son courant de pensée, ça m'est égal, elle connaît d'emblée mon identité. Et quand la relation est véritablement établie, qu'elle est de confiance, je peux me permettre de lui demander « Est-ce que vous priez ?» quand elle n'est pas bien. C'est rare qu'elle ne me dise pas « Oui ». Parce qu'en principe, une personne qui vient, quand on va voir le médecin, c'est qu'on a mal, on a une douleur quelque part. Et bien quand on va voir un psychologue, c'est quelque part aussi, on a l'âme qui souffre, l'âme est blessée. Il y a des blessures qui sont des fois très très profondes. Et bien je peux vous dire que la personne, elle prend le risque d'invoquer particulièrement la Vierge Marie, alors qu'elle est très loin de l'Église. Je trouve ça formidable. Et puis à un moment, je leur dis, mais écoutez, quand vous n'êtes pas bien, allez dans une église, la chapelle qui est ouverte près de chez vous, vous vous mettez dans un petit coin au fond et vous restez 10 minutes, un quart d'heure. Et puis vous vous adressez avec vos mots à vous, avec ce Dieu qui est le vôtre. Et c'est rare que la personne me dise, quand je la retrouve la fois suivante, elle me dise très souvent, ça m'a fait énormément de bien. Même si en sortant, elle me dise, bon, mais je retrouve mes difficultés. Certes, mais je sais que là j'ai un temps de repos de mon âme, et pour moi c'est l'occasion, mon cabinet c'est aussi un lieu d'évangélisation, parce que ça, voilà, chacun le sien.
Je pense que avant qu'on commence cette émission, dont la première donc de 5 sur ce thème Dieu peut-il guérir, aujourd'hui le thème c'est la conversion, il serait bon de dire quelques mots des fameuses retraites de guérison intérieure. Alors il y en a certains pour qui c'est probablement du chinois, d'autres qui connaissent mieux, probablement un certain nombre d'auditeurs qui sont assez sceptiques. Qu'est-ce qu'on appelle les agapés, si on parle en l'occurrence de celle du Puy-en-Velay, qui est une des plus célèbres en France, et une des plus sérieuses, si c'est pas la plus sérieuse, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. C'est quoi ces retraites de guérison en quelques mots, et certainement qu'on redécouvrira ça au fil des émissions.
C'est une occasion qui est proposée aux personnes qui sont en quête soit de Dieu, ou des personnes qui sont dans un renouvellement de leur foi, mais la plupart des personnes sont en difficulté, quelles qu'elles soient, qu'elles soient en difficulté de couple, en difficulté personnelle, qu'elles soient en détresse, qu'elles soient en dépression, qu'elles aient fait un travail dans d'autres pratiques psychothérapeutiques, et là, elles viennent, peut-être que le bon Dieu pourra faire quelque chose pour moi. Et c'est véritablement une transformation qui se passe à l'occasion de ces retraites. Si nous avons démarré ces retraites, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de demandes d'aide. Et les prêtres, quand ce sont des chrétiens bien sûr, les prêtres sont surchargés. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps. Alors, les personnes sont en demande. Et où aller ? Donc nous avions, au tout début, nous avions l'intention justement de former. Des écoutants, des accompagnateurs. C'est ce que l'on a fait. Maintenant, au Puy-en-Velay, il y a 110 accompagnateurs. Donc, on peut accueillir beaucoup de personnes qui sont en quête de la libération intérieure. C'est-à-dire que...
Mais qu'est-ce qui se vit pendant ces semaines, en fait ? C'est-à-dire qu'on se met sous le regard de Dieu.
On se met sous le regard du Christ.
Et en fait, Dieu agit.
Et c'est Dieu qui agit. Voilà. C'est ça, à partir de la parole de Dieu. Donc, on part de la parole de Dieu. Et la personne va être rejointe dans son parcours intérieur qui va lui permettre de sortir... En fait, on a pris, disons, trois grandes étapes en suivant le peuple juif. Le peuple juif, c'est moi, c'est toi. C'est-à-dire, tu es en esclavage en Égypte et le Seigneur veut t'amener sur la terre promise. Évidemment, entre l'Égypte et la terre promise, il y a le désert. Et dans ce désert, on va tourner. C'est là qu'il va y avoir la démarche de libération intérieure. La personne va être confrontée à elle-même, à ses difficultés, ses souffrances et aussi son péché.
Alors venons-y donc au premier thème donc de cette première émission de cette série de carême, donc série sur Dieu peut-il guérir, première émission la conversion. Je voulais vous lancer avec une phrase du pape François, c'était en mars 2018 rapportée par Imedia, où le pape François invitait les chrétiens à convertir leur manière de penser. Alors rien de nouveau sous le soleil, hein, puisque certains apôtres ont dit la même chose. Il invitait à s'interroger avant d'agir, en se demandant si c'est une pensée païenne ou chrétienne. Bref, on entend derrière ça qu'il y a une transformation en fait radicale qui doit être vécue. Vous insistez pour dire que la conversion, c'est d'abord prendre conscience de la distance infinie qu'il y a entre Dieu et moi, c'est-à-dire.
Eh bien, quand on est tous sur le chemin en tant que chrétien, on fait ce qu'on peut pour être tendu vers Dieu. Mais c'est vrai que la période de carême, particulièrement, au moment où le prêtre va déposer la cendre sur le front, qu'il dit « convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». Convertissez-vous, ça veut dire changer d'attitude, c'est ce que le pape dit. Changer d'attitude, mais ça veut dire changer quelle attitude ? Ça veut dire changer les attitudes qui m'éloignent de Dieu. Tout ce qui est de l'ordre du péché, bien sûr, du mal subi, du mal commis. L'important, c'est de se rendre compte, vraiment dans un cœur à cœur avec le bon Dieu, quelle distance nous sépare de lui. Le carême est là justement pour croire en la miséricorde.
Mais c'est pas si facile que ça, je veux dire, c'est pas une démarche intellectuelle qui permet de...
C'est pas une démarche intellectuelle.
Il faut demander quoi
Il faut demander l'action de l'Esprit Saint. Nous, on est sous l'action de l'Esprit. C'est vrai que l'Esprit Saint, c'est un grand mystère. Je vois, quand je pose les questions aux personnes, je leur demande, est-ce que vous invoquez l'Esprit Saint ? C'est rare qu'elles me disent oui. À moins que ce soit vraiment des pratiquants fidèles, tous les jours, avec des longs temps de prière, qui me disent oui. Et encore, quand je leur demande, mais l'Esprit Saint, vous l'invoquez comment ? Elles me disent, je l'invoque, je fais une prière à l'Esprit Saint. Combien de temps ça dure ? Le temps d'une prière, quoi, ça fait une minute. Ben, c'est pas en une minute que je vais être disponible intérieurement pour aller dans cette recherche de Dieu, dans ce cœur à cœur avec Jésus. On invoque l'Esprit Saint et il faut y prendre le temps. C'est un temps de plaisir aussi. Au début, ça c'est un peu difficile et à un moment, il y a du plaisir. C'est là que je vais être en toute disposition pour me rapprocher du Seigneur.
Est-il normal d'avoir peur, en fait, de quelque part de se tourner vers Dieu, de prendre conscience de cette distance infinie? Il y a bien des passages dans les Écritures, vous citiez en l'occurrence l'histoire du peuple juif, où par moment, en fait, ouais. quand tout d'un coup ces hommes font face à Dieu, il y a comme une frayeur, une ouais. terreur presque, peut-être ouais. pas une terreur, mais une grande frayeur, en fait, ouais. qui saisit ces hommes.
Ah ben oui, mais Adam, il nous a bien montré que dès l'instant où on désobéit à Dieu, il a fait le choix, comme nous, de se cacher. D'aller dans les obscurités, justement, pour pas se faire voir. Évidemment, quand il a entendu les pas du Seigneur, il a commencé à avoir peur. D'ailleurs, s'il s'est caché, c'est parce qu'il avait peur. Ce qui veut dire que dès l'instant où on est en situation de faute, où on est en situation en plus de péché, il va y avoir une peur. Ça me rappelle, j'ai une petite fille adorable, nous sommes très très proches, et quand elle avait 4 ans, je savais qu'elle tripotait mon téléphone. Elle était constamment... Et alors, elle décrochait, évidemment. Et alors, elle vient à la maison ce jour-là, et je lui dis, tu sais, ma chérie, papy voudrait pas que tu touches le téléphone, parce qu'il attend quelqu'un qui va l'appeler. Oui, papy. Évidemment, quand j'ai tourné le dos, elle a été toucher le téléphone, et c'est au moment où je rentre dans la pièce que je la vois avec le téléphone, et elle raccroche comme elle peut, et je m'approche d'elle, je dis alors... Ma puce, elle me dit, papy, j'ai peur de toi. Vous voyez la peur de suite. Pourtant, elle sait que je l'aime. Mais le premier élan, c'est un élan de peur. Dès l'instant où je suis en faute, mais c'est le propre de l'homme. Dès l'instant où il chute, dès l'instant où il est pécheur, au fond de lui, il a une conscience quand même, qui le réveille, qui le touche et qui déclenche une émotion de peur. Après, quand on croit véritablement à la miséricorde, on se dit, ok, c'est bon, le prêtre va être là pour me bénir et puis restaurer mon âme. Et restaurer ma dignité d'être.
Alors vous vouliez insister aussi sur le fait qu'il y a, avant qu'on fasse une première pause, il y a peut-être une différence de disposition lorsque l'on est croyant ou non croyant, puisque bon, on essaye quand même dans cette émission de s'adresser à tous, j'espère qu'on y arrive un petit peu. En l'occurrence, lorsque l'on est croyant, pour faire écho aux ouvrages que je citais, est-ce que la recherche quelque part est un peu différente? Que l'on soit croyant ou non-croyant, il ne s'agit pas de stigmatiser l'un ou l'autre, mais s'il y avait une différence, quelle est-elle?
Je pense que la grande différence, c'est que quand on voit tous les livres de psychologie, et donc, ou les revues de psychologie, et je suis bien placé pour le savoir, parce que je les lis de temps en temps quand même, et je vois qu'il y a la grande démarche qui est proposée, disons, les outils qui sont proposés, ce sont des outils qui vont permettre à la personne de se débrouiller toute seule. C'est-à-dire qu'on donne des explications, des choses à faire, à vivre au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée, qui fait qu'elle va se prendre en charge toute seule. Elle, ce qu'elle recherche, c'est quoi? Les valeurs profondes de recherche, c'est la joie, la paix, avoir un bien-être matériel, être en fin de compte réconciliée avec elle-même. Mais elle le fait toute seule. Les valeurs morales qu'elle a, de paix, de joie, lui suffisent en soi. Le chrétien, c'est différent.
Ce qui fait peser aussi une grande responsabilité non, sur les épaules des personnes qui se prennent en charge toutes seules, non c'est...
Même pas, dans la mesure où ça marche. Elles vont faire du yoga, elles vont faire de la relaxation. Je ne suis pas contre la relaxation. Hein. Elles vont être bien, mais ça leur suffit. Pourquoi voulez-vous qu'elles fassent appel au bon Dieu? La différence avec le chrétien, c'est que lui, il sait que, comme Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ça veut dire qu'il le sait, qu'en tant que croyant, c'est en se rapprochant de Dieu qu'il va pouvoir trouver la véritable paix, la véritable joie. Ce qui se passe pour les non-croyants, c'est qu'à un moment, ils vont faire abus de leur liberté. Le chrétien, il a une conscience suffisamment fine par la parole de Dieu, ce qui nous est dit dans les évangiles, qui vont être les jalons, qui vont lui permettre d'être sur le bon chemin dans les pas du Christ. Le non-croyant, lui, étant donné que Dieu n'est pas sa préoccupation, c'est lui-même. La différence est là. Nous, notre préoccupation, c'est le Christ. Alors, bien sûr, au départ, il est fondamental que je m'occupe de moi. Pourquoi ? En vue de quoi ? En vue de m'effacer petit à petit, pour que le Christ prenne la place. C'est ce que dit Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour que lui croisse en moi. Vous voyez, la grande différence est là.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver Daniel Desbois pour cette première émission « Dieu peut-il guérir ?» sur la conversion dans quelques minutes.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Dieu peut-il guérir ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce lundi, deuxième lundi de carême. On commence, pour ceux qui nous prennent en cours de route, une grande série de carême avec, sur ce thème, avec Daniel Desbois, psychologue, cofondateur des Agapés du Puy-en-Velay. Les Agapés étant des retraites de guérison intérieure. On aura le temps au cours des émissions de repréciser ce que c'est. On peut peut-être juste dire que ce n'est pas des lieux où on vient demander d'abord des guérisons physiques. Hein, c'est guérison intérieure, ça veut dire que c'est
guérison de l'âme.
Guérison de l'âme. Dans cette donc émission sur la conversion, vous vouliez insister dans cette deuxième partie sur les conditions du changement. Il y a une chose importante que vous vouliez souligner, c'est la sincérité. On a l'habitude de dire que Dieu écoute toutes les prières, mais qu'il y a une condition quelque part pour que la prière soit juste, ça serait qu'elle vienne, elle soit profondément sincère, ou alors on le dit de manière plus triviale, qu'elle vienne du fond des tripes. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le mot sincérité, Daniel Desbois ?
Oui, je le pense. Oui. Je vais simplement vous faire un petit rappel dans Hébreux 10, qui nous dit ceci. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Donc le Seigneur, il nous dit bien, et je le vois, combien de chrétiens me disent « Mais comment ça se fait pourtant ? Pourtant je prie, je n'arrive pas à changer. » Ce qui m'a toujours étonné, c'est que je vois les personnes qui font des retraites. Il se passe des choses extraordinaires dans les retraites. Elles vont passer 3 jours, elles vont passer une semaine. Il y a un avant et un après. Quand elles sortent, on sait qu'elles savent que l'Esprit a agi, qu'il y a une transformation dans leur cœur. Ce qui est étonnant, Mais je vais vous dire, même pour les agapés aussi, hein, ce qui est étonnant, c'est que 3 mois après, 6 mois après, la personne, elle commence à ramer de plus en plus. Et puis j'en reçois qui me disent, mais c'est drôle, mais je reviens comme avant. Je redeviens comme avant. Qu'est-ce qu'elles font? Elles refont une autre retraite. Et puis en fin de compte, même s'il y a un progrès.
Vous pouvez prendre un exemple précis peut-être qui vous viendrait en tête d'une...
Oh, ben, je pense que l'exemple, j'ai donné une réponse plus globale, c'est dans la mesure où la personne prend conscience qu'au fond, elle a une sincérité qui est trop pauvre, une foi qui est trop faible, au moment où elle se rend compte qu'elle a peut-être des avantages secondaires. Le problème est là. Elle a peut-être encore des avantages secondaires à continuer à fonctionner comme elle fonctionne. Et c'est quand on rentre là-dedans que la personne se rend compte qu'au fond, elle n'est pas si engagée que cela. Parce que je me disais, mais quand on reçoit des grâces, on a l'esprit qui est en soi, en principe, on devrait transformer notre vie. Eh bien non. Et je vois que la transformation de la grâce, elle demande une implication telle, et c'est la puissance de la sincérité. J'aime beaucoup cette parole de, comment s'appelle-t-elle, de Sœur Faustine, qui dit ceci, « Dieu mesure l'intention au départ, et agit selon elle. » C'est-à-dire que mon intention, le poids sur la balance, s'il est faible, si mon intention, si mon désir, si ma sincérité est faible, l'action de Dieu va être faible. D'ailleurs, le Seigneur, il le dit bien, il le dit quand il guérit les personnes, et quand il guérit la personne sans la toucher, il lui dit, je vais prendre Bartimée pour en prendre un, quand Bartimée vient le voir, et qu'il vraiment il supplie le Seigneur de le guérir, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne le touche pas, il lui demande simplement, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire, il lui demande son désir. Ah ben, Seigneur, je veux retrouver la vue. Et c'est très beau la réponse, Jésus qu'on connaît hein, dans la Bible, qui dit Jésus qui lui répond dans les évangiles, Jésus qui lui dit « Sois guéri selon ta foi ». Non, il lui dit ta foi t'a guéri, pardon. Ta foi t'a guéri. C'est-à-dire qu'il a une foi suffisamment forte pour être guéri. Mais à d'autres moments dans les évangiles, on entend Jésus qui dit « Sois guéri selon ta foi ». Si tu as une foi suffisamment forte, c'est-à-dire si tu es suffisamment sincère, tu seras guéri dans ton âme ou dans ton physiquement, hein. Mais ça veut dire que si on est plus léger, ben, il y aura des difficultés. Vous voyez, c'est vraiment au poids que ça se passe, la sincérité.
Vous avez une phrase comme ça qui est un petit peu mordante. On a cité tout à l'heure le pape François, je pense que la sienne le serait encore plus. Si je persiste dans une mentalité ancienne à résister à la conversion, je peux me donner l'illusion d'être un bon chrétien. Le pape François aurait certainement des mots plus verts, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, alors là on parle aux chrétiens et aux chrétiens pratiquants, on peut en fait vivre une vie chrétienne comme ça d'année en année et parce que la sincérité n'est pas complète, en fait, végéter,
c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une sincérité qui se calme. Des fois, je demande aux personnes, je leur demande, alors qu'elles sont chrétiennes, pratiquantes, tout ça, je leur demande combien de temps vous priez par jour? Mais c'est souvent que j'entends, je fais un « Je vous salue Marie » ou « je prie 5-10 minutes le matin ». Et le soir, qu'est-ce que vous faites? Ben pareil, je fais 5-10 minutes aussi. C'est pas en 5-10 minutes qu'on peut penser que notre rencontre avec le Christ se fait. Il faut beaucoup plus de temps. Et elles se rendent compte, après quand on en parle, que je leur dis, déjà d'invoquer l'Esprit Saint, qu'évoquer l'Esprit Saint, ça prend du temps. Déjà minimum 10, un quart d'heure, rien que pour invoquer l'Esprit Saint. Et elles se rendent compte, après, quand je les suis, elles se rendent compte qu'effectivement, il y a un ancrage, un enracinement qui se fait dans leur prière et qui leur permettent de dire, mais par différence, c'est vrai qu'avant, je croyais être un bon chrétien, mais je me rends compte que au fond, c'est quand même pas simple d'être un bon chrétien. Bon, entre guillemets, personne n'est bon, hein, on le sait bien. Mais s'engager sur ce chemin-là, ça demande une implication forte. Parce que je vois, des fois le soir, je leur dis aux personnes, le soir, quand on arrive au moment d'aller se coucher, et puis il est peut-être 11h, on est rentré, voilà, et on est fatigué, on a envie de se coucher. Alors qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, ben, la prière va être rapide, je vais faire un Notre Père, je vous salue Marie, je vais me coucher. Je dis, non, vous allez vous installer, et pour ne pas vous endormir, si vous le pouvez, mettez-vous à genoux. Et si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, asseyez-vous en bord de chaise, étendez les mains, élevez les mains vers Dieu, invoquez l'Esprit Saint, faites même un Notre Père, un Je vous salue, les mains tendues, le corps est temple, donc le corps est priant. Et vous allez voir, vous allez passer un temps à parler avec Jésus, mais la bouche ouverte, pas par la pensée. Et je vois combien les personnes découvrent, eh bien justement, petit à petit, cette intimité qui est en train de se faire et qui leur fait dire, c'est pour ça que je dis cette phrase-là, qu'en fond, être chrétien, c'est pas évident. Et elles se rendent compte qu'au fond, leur prière et leur identité de chrétien étaient quand même pas mal endormies.
Vous insistez après sur l'importance donc d'un double oui. Alors on comprend un petit peu derrière cela ce qu'il y a, c'est le oui de l'homme comme réponse au oui de Dieu. Je vais vous laisser développer, mais j'avais en fait une autre question avant ça. J'ai souvenir comme ça d'une invitée, je crois que c'était la semaine dernière, qui disait en fait « Oui, je croyais en Dieu, je croyais que Jésus était ressuscité, en fait, que c'était vrai, mais je ne croyais pas du tout que ça me concernait en fait directement. » J'ai envie de dire, est-ce que... on peut s'en désoler ou s'en sentir coupable, mais est-ce qu'on est quelque part totalement responsable de ne pas avoir cette foi-là ? N'est-ce pas à Dieu d'avoir l'initiative de nous en convaincre, Daniel Desbois ?
Mais en même temps, le Seigneur nous dit « convertissez-vous ». Donc il nous dit « prenez en charge la chose ». C'est-à-dire que Dieu est toujours dans le oui. Et lui ne demande qu'une seule chose, c'est que ses enfants reviennent à lui. On est fait pour lui. On est fait pour le Père, on est fait pour le Fils et l'Esprit Saint, on est fait pour eux. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est que cette attraction d'amour qui nous ramène à lui, elle va être en résistance. Justement. Et il nous dit, mais convertis-toi. Il nous demande de nous convertir, de changer d'attitude. Et justement, c'est là qu'il nous demande d'être sincères. C'est là qu'il nous dit maintenant, prends en charge ta vie. Quand il dit, prends ton brancard et retourne chez toi. Il nous dit cela à nous aussi. Fais le nécessaire. J'ai besoin de ton oui, mais d'un oui fort. Que sur la balance, il y ait quand même suffisamment de poids dans mon oui. C'est là qu'il y a le manque de sincérité.
Est-ce que vous auriez un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné dans une retraite de guérison où vous avez souvenir que voilà, quand ce oui a été posé, eh ben, il y a quelque chose... Des choses qui se sont passées.
Je vais vous donner un exemple très simple. Là, j'ai vu une amie là, il y a 7 semaines et qui me dit, elle est pharmacienne, et elle me dit, oh là là, je suis depuis des mois et des mois, je me bats contre la pharmacienne responsable, parce qu'elle dit, je vois les dysfonctionnements, je vois sa manière de manager la pharmacie, et je me rends compte de ce qui n'est pas bon. Et sans cesse, je lui fais les remarques, elle ne change pas, et en plus, ça l'agace. Et elle me dit, parce qu'elle est, c'est une battante, hein, vraiment chrétienne engagée, et elle me dit, mais un jour, j'ai compris que la conversion m'appartient. Et je me suis dit, mais c'est pas à toi de la changer. C'est à toi de changer. Et elle me dit, dans la mesure où j'ai pris conscience que ça appartient au bon Dieu de changer le cœur de la personne, si elle le désire, et que ça ne m'appartient pas, j'ai arrêté de lui faire des remarques. Et elle me dit, tu peux pas savoir, depuis que j'ai arrêté, c'est là qu'il y a conversion, tu ne peux pas savoir depuis que j'ai arrêté combien elle est bonne avec moi, et en plus, elle change dans ce que je lui avais proposé, comme si le message était rentré, et maintenant il est vécu. Donc ça passe à l'acte de son... Et elle me dit, on a fait un tandem extraordinaire.
Donc c'est pour ça que Dieu ne nous harcèle pas. Alors
Et ne nous harcèle pas, il est patient. Il nous attend seulement.
Donc le double oui. Alors pour poser ce oui donc sincère et radical, et répondre donc au oui de Dieu, puisqu'à vous entendre, Dieu ne fait que dire oui, et veut donc... veut que les hommes soient debout, soient guéris, et tous, et pas seulement ceux des récits évangéliques. Et donc chacun de nous, vous insistez sur le poids du passé. À vous entendre, en fait, il y aurait probablement qu'on aura d'autres émissions pour déployer tout cela, mais on serait tous empêchés par des espèces de serments intérieurs ou par des portes, en fait, qu'on aurait fermées pour guérir. Alors pour essayer de ne pas rester trop vague, est-ce que vous avez des histoires à nous raconter ?
Oui, je peux vous prendre le cas de... Alors, je vais expliquer d'abord, avant de donner l'exemple, je vais expliquer. Un enfant, dès l'instant, un petit enfant, dès qu'il arrive dès qu'il est conçu, en fait, hein, il est fait pour l'amour. Il est fait totalement pour l'amour. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un papa et une maman, ils sont ce qu'ils sont, qui vont l'accueillir comme ils peuvent, soit avec les bras grands ouverts, un cœur grand ouvert, soit avec une difficulté d'aimer, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, l'enfant, lui, étant donné qu'il est fait pour l'amour, il attend de ce papa et cette maman, qui sont les représentants de Dieu. Pour lui, c'est l'incarnation du bon Dieu. C'est-à-dire, il attend un amour total, un amour infini. Mais cet amour, évidemment, il ne va pas le recevoir totalement, parce que les parents, ils sont ce qu'ils sont. Dans leurs limites, ils font ce qu'ils font, ce qu'il faut, ce qu'ils peuvent pour aimer. Quoi qu'il en soit, quand les manques d'amour sont beaucoup plus incisifs et répétitifs, à un moment, l'amour est usé. Le doute commence à s'installer dans le cœur de l'enfant. Et évidemment, le petit enfant qui est dans un contexte, il est obligé de rester dans ce milieu parce qu'il est tout petit. Il va grandir dans ce milieu jusqu'au jour où il va partir. Mais tout ce temps, au départ, dans les 3, 4, 5 premières années, ce temps qu'il va avoir d'adaptation avec ce père et cette mère, ce grand frère, etc., il va s'adapter comme il peut, avec le manque. Et il va faire ce qu'il peut. Et c'est dans ces moments-là qu'il va se positionner, qu'il va prendre des décisions, qu'il va avoir une certaine croyance sur l'amour d'un papa, l'amour du...
Mais c'est des choses conscientes, parce que quand on a des enfants aussi jeunes, ou qu'on en a eu, on a du mal à imaginer qu'ils puissent poser des... ce type de réflexion, ce type de serment intérieur, comme vous savez,
je comprends. Mais jusqu'à l'âge de 3 ans, l'enfant, lui, il est simplement dans une conscience d'amour. Mais à 3 ans, 4 ans, il y a la raison, la réflexion qui s'inscrit dans son cœur et dans sa tête. Et la raison va lui permettre de comprendre ce qui se passe. Et c'est là qu'il va se positionner. Il va faire des choix. Il est obligé de faire des choix pour s'adapter. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir une torsion. C'est un enfant qui a été touché dans son innocence. Son innocence est blessée. Et c'est l'innocence blessée qui va entraîner une torsion et qui va entraîner le péché.
Et ça, c'est le cas de tout le monde, en fait.
Et ça, c'est le cas de tout le monde. Plus ou moins, bien sûr, quand on est dans une famille où l'amour est là, l'amour circule, il n'y a absolument aucun problème. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, puisque vous m'en avez demandé. Hein. C'est une jeune femme qui n'a pas du tout été attendue, ni par papa, ni par maman. Pire, la maman a tout fait pour faire une tentative d'avortement, et ça n'a pas marché. Donc, ils ont été obligés, et elle a été obligée d'accueillir cet enfant. Et alors, c'est curieux, parce que quand cette personne vient, elle est dans une angoisse énorme. Et ce qu'il y a de beau, c'est une personne qui est très, très, très charismatique. C'est une personne très charismatique et qui, tout d'un coup, rentre dans une fragilité qu'elle n'a jamais connue, parce que c'est une personne dont on a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup d'elle. Elle a réponse à beaucoup de choses, elle structure les choses, elle est vraiment indispensable, entre guillemets. C'est une personne qui est absolument indispensable. Et elle se rend compte que... elle se rend compte en parlant que elle me sort une croyance. Elle me dit... Attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit... dans la vie, il faut se battre. Sinon, on meurt. Et elle me dit, dans la vie, il faut que je me batte, sinon je meurs. Ça veut dire ça. Alors, ça m'interpelle, ça. C'est une croyance. Pourquoi? Dans la vie, faut-il se battre pour pouvoir vivre, parce qu'elle me dit, sinon je meurs. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais petit à petit, elle se rend compte, on a parlé donc de son enfance, et elle s'est rendue compte que c'était vraiment lié au fait qu'au fond, toute petite, elle a dû lutter contre la mort, parce qu'ils s'occupaient très peu d'elle, ils ne l'ont pas aimée. Elle a été dans un manque tellement profond. Elle, d'une nature, c'est comme ça, elle avait envie de vivre. Le problème, c'est qu'en grandissant, après adulte, se rend compte qu'il lui fallait des obstacles, être confronté aux obstacles pour trouver des solutions. Et c'est vrai qu'elle trouvait toujours les solutions, mais en fin de compte, ce qu'elle me dit, mais ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il faut que je sois constamment en guerre pour trouver la paix. Et une fois que je suis dans la paix, elle me dit, je meurs, quand je suis dans la paix, je meurs. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il quand vous êtes dans la paix? Elle me dit, quand je suis dans la paix, intérieurement, je m'éteins. Et j'ai besoin de retrouver un lieu de guerre. Mais ça paraît tellement paradoxal de dire, attends, pour pouvoir trouver la paix, il faut que tu sois en guerre. C'est vrai que ça paraît paradoxal. Mais voyez, les décisions, comment ça entraîne des complications. Alors je lui dis, mais...
C'est ce qu'on appelle en partie, donc, c'est ce qu'on appelle ces serments intérieurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une phrase où dit quelque chose qui devient définitif, en fait.
Voilà, qui devient définitif et qui s'inscrive et qui s'ancre. On aura l'occasion d'en reparler, hein, quoi qu'il en soit. Et alors cette personne, je lui demande, mais au fond, que se passerait-il pour vous si vous arrêtiez de fonctionner comme ça, c'est-à-dire si vous arrêtiez de vous battre? Elle me dit, ben je meurs. Donc elle confirme. Elle dit, je meurs. Alors je lui dis, ok, alors vous mourrez, alors? Et là, elle éclate de rire, elle me dit... Peut-être que je commencerai à vivre, mais là je vais avoir besoin du Seigneur, parce que c'est une religieuse. voyez, mais c'est incroyable, quoi. Vous voyez comment une décision, et on en est tous là, qui nous fait vivre une décision. Quand ce sont des croyances qui sont belles, positives, entraînantes, c'est formidable. Mais quand c'est une croyance limitante, ben ça tue la vie.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour voir quelles grandes étapes on peut poser supplémentaires en dehors de ce désir sincère de changer, de dire oui et de commencer à faire la lumière sur son passé.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Dieu peut-il guérir ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, première donc d'une série de 5 émissions de Carême sur ce thème avec Daniel Desbois, psychologue et cofondateur des Agapés du Puy-en-Velay, retraite de guérison intérieure. Dans cette dernière partie, donc, on continue d'explorer le thème de la conversion et les différentes étapes de cette conversion. Vous voulez insister sur un aspect, et c'est une bonne nouvelle, la souffrance est le point d'appel au changement. La souffrance, c'est pas toujours quelque chose qu'on voit de manière positive, et on peut pas dire que ça le soit, mais ça peut être ou c'est souvent en fait le lieu où on peut vraiment tout d'un coup quoi prendre appui pour initier un changement.
Oui, c'est vrai, ça paraît curieux de dire cela, que la souffrance c'est un appel au changement, mais je me rends compte de plus en plus que, de toute façon, quand quelqu'un vient voir, que ce soit le médecin parce qu'il a mal, ou que ce soit le psychologue parce qu'intérieurement il souffre, il vient exposer sa souffrance, c'est-à-dire il vient se dénuder dans son âme, s'exposer dans sa fragilité. Et c'est pas toujours qu'on n'a pas toujours envie de s'exposer dans notre fragilité. Et pourtant, cette fragilité, elle est cause de souffrance. Et c'est cette lutte contre la souffrance, j'en ai ras-le-bol de souffrir. Vraiment, je souffre de souffrir, ou je souffre de faire souffrir. Tant qu'on n'en arrive pas à donner sens à la souffrance, ben la souffrance, elle continue, elle perdure. Et je vois Parce que c'est important, parce que le but c'est pas de faire l'apologie de la souffrance, mais en tant que chrétien, on sait très bien qu'on passe par notre chemin de croix. Mais seulement, il y a des temps ou des personnes qui restent sur la croix et meurent sur la croix. Mais c'est pas le but. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que la croix est un passage. La souffrance est un passage en vue de la vie, en vue de la résurrection. C'est un passage de la mort à la vie. Quand on n'est pas suffisamment intérieurement enraciné dans cette certitude que cette souffrance va n'être qu'un passage, eh bien, il y a une peur. On n'a pas envie d'aller sur la croix, on n'a pas envie de donner sens même à la croix. Et j'aime bien dans le psaume 118, c'est au verset 67 et 71, qui nous dit ceci. « Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. » Donc, c'est-à-dire, la personne, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle s'égare dans sa vie. Et que, justement, c'est à cause de la souffrance. Donc, avant d'avoir souffert, je m'égarais. Donc, la souffrance, ça va être le moment où elle va prendre, si elle donne sens, elle va prendre conscience qu'elle s'égare en fonctionnant comme elle fonctionne. Et la suite, c'est « Maintenant, j'observe tes ordres. » Et deux versets plus loin nous dit ceci. « C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. » Donc ça, c'est encore le clou qui s'enfonce là.
Ça pourrait être un peu un scandale de dire
c'est
ça.
C'est un scandale. Vous dites ça à quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va dire, mais attends, ça c'est bien un truc de chrétien, ça, de croire que voilà, c'est la souffrance, c'est l'apologie. Non, pas du tout. Non, c'est un passage. Mais le problème de la souffrance, c'est si c'est une étape, c'est bon, parce qu'on donne sens. Mais si ça devient un état chronique, la souffrance devient pénalisante et l'âme se rabougrit petit à petit et on rentre jusqu'au désespoir.
Alors vous nous avez expliqué dans la précédente émission que voilà, on avait chacun un rôle clé à jouer, donc d'avoir le désir sincère quelque part de sortir de de nos souffrances, donc d'emprunter un chemin de vie, donc de dire oui à Dieu. Vous avez pour ça pris entre autres l'exemple d'une histoire de cette jeune femme qui n'avait pas été désirée. Est-ce que vous pourriez mieux expliquer, parce que comment prend-on la décision de transformer, on va dire, nos habitudes qui nous enferment dans certaines souffrances, à vous entendre, ces serments dont vous parliez tout à l'heure. On n'en a souvent pas conscience, puisque c'est très jeune. Donc, désirer sincèrement changer, c'est une chose, mais quand on ne sait pas dans le fond de quoi on souffre, c'est un peu compliqué. Alors, comment est-ce qu'on arrive à mettre à jour, en fait, ces serments intérieurs, et puis à prendre une décision, mais qui est ajustée?
Ben, c'est en cela qu'on a besoin d'être écouté. Quand quelqu'un est en difficulté, c'est qu'il a des choses à dire et qu'il ne peut peut-être pas dire aux proches qui ne le comprennent pas. Et puis, il y a aussi une chose qui est un petit peu pénalisante. Quand une personne va commencer à parler de sa souffrance, ce qui vient naturellement pour l'ami, qui m'écoute, c'est de me donner un conseil. C'est pas le conseil qui va faire sortir de la souffrance, c'est pas le conseil qui va amener à la conversion, c'est pas le conseil qui va m'amener à prendre conscience de mes mécanismes. Pour pouvoir comprendre les mécanismes, il faut rentrer dedans. Et je vois, bon, le but, c'est d'amener la personne petit à petit à prendre conscience. Pour moi, c'est fondamental de voir comment ce système de défense, quand elle était dans le manque d'amour, comment elle s'est construite, enfant, comment elle s'est construite, de voir que ça s'est perpétué dans le temps. Et qu'aujourd'hui, elle continue à vivre encore son passé. Vous voyez, il y a tellement de personnes qui ne vivent pas leur vie, mais qui vivent leur passé. Tant que la personne ne prend pas conscience qu'elle est encombrée, phagocytée par un passé qui n'est en fin de compte pas défait, qui ne s'est pas éloigné, qui lui colle à la peau, tant qu'elle n'a pas conscience de cela, elle ne peut pas savoir. Elle est dans son innocence blessée toujours, vous voyez. Et c'est là qu'il faut dire, mais c'est normal que vous fonctionniez comme ça.
Alors donnez-nous des exemples aussi, des exemples de personnes que vous auriez accompagnées dans ces retraites de guérison, où elles ont réussi à mettre à jour certains mécanismes, oui. et puis elles ont pu prendre des décisions justes face à cette souffrance.
Oui, ben je vais vous donner... Je vais vous donner deux exemples. Un exemple, c'est un monsieur qui souffre énormément d'un célibat subi. Et Voilà, pourtant, je le vois, c'est une personne qui est très ouverte, qui est, belle dame, bien, sous tout rapport. Et puis je me dis, c'est quand même curieux. Et puis, bon, on rentre un petit peu dans son histoire. Et puis, il me dit, j'ai toujours eu du mal à choisir. Ah bon ? Il me dit, je sais pas, à chaque fois que je suis avec les femmes, tout ça, je suis dans des complications, dans des angoisses, pas possible. Alors je demande, est-ce qu'il y a longtemps que vous fonctionnez comme ça ? Dans cette difficulté de choisir. Et il me dit, oula, oui, je me rappelle, la plus grande difficulté, la plus grande souffrance que j'ai eue, c'est le jour où j'étais petit, hein, j'avais 4 ans. Et il me dit, je me suis retrouvé face à papa et maman qui avaient décidé de divorcer. Je suis face à eux, et ils viennent me voir tous les deux, donc en complicité. Et ils me disent, mais tu vois, chérie, papa et maman se séparent. Avec qui veux-tu aller ? Et il m'a dit, j'ai eu un effondrement intérieur. Et il dit, mais ça m'est venu d'emblée, jamais dans ma vie je ferai de choix. Jamais dans ma vie je poserai un choix. Parce que choisir papa, c'est éliminer maman, mais choisir maman, c'est éliminer papa. Et il a grandi comme ça. Et il s'est construit comme ça, en ne choisissant pas. Problème, c'est qu'il rencontrait des jeunes femmes, et puis ça se passait très bien. Mais au moment de l'engagement, quand la femme lui disait... Elle lui faisait comprendre qu'elle voudrait bien vivre, partager sa vie avec lui. C'était impossible. Il y avait cette croyance qui était en arrière-fond qui lui disait « recule, tu vas souffrir ». Voilà. Et donc, quand il a pris conscience de ça, qu'au fond, il était encore en train de vivre son passé, il me dit « mais c'est pas possible, je suis maintenant c'est dépassé cette affaire-là ». Je dis « oui, mais qu'est-ce que vous allez faire pour le dépasser ?» Et bien, il me dit « considérez que cette croyance-là, elle est caduque aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez poser aujourd'hui comme nouvelle croyance ? Je crois en l'amour, il me dit tout simplement. C'est pas parce que mes parents ont divorcé et que j'en ai souffert que moi, obligatoirement, je vais divorcer. Je suis prêt. Et ben, je peux vous dire qu'un an après, il était marié. Vous voyez, c'est pour dire que le passé, tant qu'on ne le dépose pas, on est encombré. Et je veux vous dire, un chemin d'accompagnement, c'est d'amener la personne à se désencombrer de ce qui ne lui appartient pas. Ça ne lui appartenait pas, cette décision qu'il a prise. C'est les circonstances qui l'ont amené.
Vous avez une expression pour ça, vous dites la réconciliation avec soi-même. Est-ce que c'est ça que ça signifie ou...
Eh oui.
C'est-à-dire ?
Ben, vous savez, quand on est... quand on n'est pas aimé comme on aurait dû être aimé enfant, quand on n'est pas aimé complètement... c'est sûr qu'il y a l'être qui est touché, y compris dans son identité. L'être est touché, et tout à l'heure je vous disais, il y a le doute qui commence à s'installer.
Et c'est le doute sur quoi ? Sur l'amour
sur l'amour.
Sur sa propre valeur ?
Alors voilà, je vais en venir là. Il y a le doute, c'est un peu la vrille qui commence à rentrer, à creuser dans le cœur de l'homme. Et là, le doute s'installe par rapport à l'amour, mais après par rapport à lui-même. C'est-à-dire cet enfant, cette petite ou ce garçon, il va avoir un doute par rapport à lui-même. Le problème, c'est que ce doute, s'il s'inscrit de trop, l'indignité, elle va être directement proportionnelle au doute. L'indignité de soi. Ce qui veut dire que ça peut être aujourd'hui une personne, et là j'étais quand même assez étonné de voir, je vois des personnes qui sont toutes dévouées aux autres, qui sont pleines d'amour, d'attention, etc. Et puis, elles se rendent compte qu'elles sont malheureuses.
Elles ne s'aiment pas, en fait.
Elles ne s'aiment pas. Elles se rendent compte que aimer les autres, c'est bien, mais est-ce que vous vous aimez, vous ? Ah, j'ai horreur de moi. Et je vois qu'il y a une indignité d'être. Je leur dis, mais vous savez, la parole nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Donc, si on retourne dans l'autre sens, c'est tu t'aimeras comme tu aimes ton prochain.
Tu t'aimeras comme tu aimes ton prochain. Ou tu aimes ton prochain comme tu t'aimes. Si tu t'aimes pas, tu peux pas dire que tu aimes ton prochain. Pourquoi ? Parce qu'elle me dit, oui, mais j'arrive à aimer, à faire du bien aux autres. Ok, mais le problème, c'est que tu deviens, toi, source. Alors que tu devrais être que fontaine. La source, c'est Dieu. Dieu, il va t'aimer d'abord. On est d'abord les premiers servis. C'est parce que je reçois l'amour de Dieu que je vais pouvoir beaucoup plus librement aimer les autres.
Il y a une expression qui est revenue lors de cette émission et que vous n'avez pas détaillée. Vous en aviez parlé quand on avait fait une émission, je crois, il y a un an ou deux. C'est chacun. Alors, je crois que le Jean Vanier, dans le film Le Sacrement de la Tendresse, là, qui est sorti récemment, il parle d'innocence primale. Vous avez utilisé ce mot innocent. Chacun a besoin d'être reconnu dans son innocence. Est-ce qu'on peut expliquer ça?
Ben oui, parce que justement quand on parle là de l'indignité, de cette personne qui n'est pas réconciliée avec elle-même, qui a une mauvaise image d'elle-même, c'est-à-dire une fausse image d'elle-même, tant qu'elle n'est pas reconnue dans son innocence blessée, parce que des fois il y a des personnes, quand on entend ou on les voit fonctionner, on dit mais c'est normal qu'elles souffrent avec ce qu'elles font, ce qu'elles mettent en place, qu'elles se prennent des retours de flammes et qu'elles se brûlent, mais c'est normal, on lui dit mais change, mais elle n'y arrive pas.
Est-ce qu'on a tous cette innocence blessée, en fait?
On a tous cette innocence blessée.
En chacun de nous, il y a un petit enfant qui a besoin de pleurer, c'est ça?
Voilà. Et alors, à mesure qu'on avance, le Seigneur, bien sûr, il vient pacifier cet enfant, guérir, bénir. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'est pas reconnu dans notre innocence blessée, on va attendre cette reconnaissance. Alors, j'ai beau renvoyer une personne à sa responsabilisation, lui dire, mais tu vois comment tu fais, comment tu t'organises, c'est normal que tu souffres. Non, mais si elle n'est pas reconnue, si on ne lui dit pas, mais c'est normal que tu fonctionnes comme ça, parce que tu as souffert, ton innocence a été blessée, elle a besoin d'être restaurée dans sa dignité.
Et donc tu n'es pas, ce qu'on entend, c'est que ce que vous lui dites indirectement, c'est que tu n'es pas la première responsable.
Tu n'es pas la première responsable.
C'est quand même bien loin de l'idée que l'on se fait parfois, du péché, comme on dit.
C'est... Par innocence.
Voilà, on pêche par innocence quelque part.
Mais elle n'a pas conscience. Le péché devient péché quand j'en ai conscience. Là, l'enfant, il fait ce qu'il peut. Vous voyez, il grandit là-dedans, mais il ne sait pas qu'il organise sa propre mort. La mort de l'âme, il ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être rassuré.
Est-ce qu'on peut se faire ce... Je vois que l'émission touche à sa fin, Daniel. On aura l'occasion d'aborder bien d'autres thèmes, probablement celui du combat, parce que c'est pas parce qu'on a pris conscience de cela que derrière, on n'entre pas dans un combat. Ça tombe bien l'occasion de ce carême. Mais est-ce que ce travail, parce qu'à vous entendre, on se dit tout le monde ne peut pas aller voir Daniel Desbois, qu'est-ce que vous donneriez comme piste aux auditeurs qui veulent suivre cette série, on va dire, un petit peu de l'intérieur?
Je vais leur dire faire une agapée au Puy-en-Velay. C'est sûr que ça, il y a une prise en charge là qui est très belle parce que bon, on n'a pas parlé de ces choses-là, mais il y a des prières qui sont aussi faites parce qu'il y a des personnes qui veulent véritablement. Elles sont pleines de le cœur, l'élan vers Dieu est profond et sincère, véritable. Et il y a un lien, il y a un élastique qui les tire en arrière. C'est-à-dire, elles sont pleines de bonne volonté. Elles sont vraiment priantes, vraiment engagées. Et pourtant, il y a quelque chose qui les tire en arrière. Là, il faut faire une prière. Une prière spéciale, que ce soit une prière de guérison, de délivrance, de libération. Quoi qu'il en soit, ça, c'est ce que le prêtre, certains prêtres, parce que tout le monde, tous les prêtres ne sont pas, enseignés là-dessus. Mais ça fait partie du sacerdoce.
Ou alors, il y a un chemin personnel à faire, mais il y a aussi une dimension spirituelle.
Il y a une dimension spirituelle. Parce que la personne, elle fait ce qu'elle peut, mais s'il y a quelque chose qui la tire en arrière, il faut l'aider. Et là, il n'y a que le bon Dieu qui peut le faire par une prière que l'Église propose.
Merci beaucoup Daniel Desbois, rendez-vous est donné lundi prochain avec vous donc pour cette série de carême, Dieu peut-il guérir? Un grand merci à vous, on se retrouve lundi prochain, on aura l'occasion du coup au fur et à mesure des émissions de donner d'autres pistes aussi pratiques, même si évidemment on peut aller faire une retraite, une agapée au Puy-en-Velay. Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet, mais qui est aussi le vôtre, et notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.